Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est Francesca l'animation. Il est 19h et vous êtes en direct sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur le 93.9.
Ce 13 mai débute le Festival de Cannes 2025. La 78e édition donc. Juliette Binoche en présidente du jury, Laurent Lafitte en maître de cérémonie. Ça y est, les flashs crépitent, les robes flottent, les discours s'enchaînent. Tout cela pourrait sembler futile, presque déconnecté, une bulle mondaine. La croisette se pare d'or et de lumière, les caméras du monde entier se braquent sur le Festival de Cannes, célébration du cinéma. Loin des bling-bling, je ne vais pas vous parler des acteurs-actrices, les favoris, l'invité d'honneur, je vais vous parler Cinoche. Mais dans ce qu'il peut représenter, ce qu'il permet de faire, le cinéma, ce territoire à part. Le cinéma retrouve ses couleurs après des années d'interrogation, d'incertitude, de salles désertées, de doutes sur son avenir. Il y a du monde à nouveau. Le cinéma est, depuis ses origines, un refuge pour l'esprit humain, une échappée, parfois une fuite, un miroir tendu à notre époque, mais aussi un passage vers un ailleurs. Le cinéma ne se contente pas de raconter des histoires. Il les incarne, les fait vibrer et surtout, il nous fait y croire. Dans un monde saturé de brutalité, d'urgence climatique, de crise sociale et économique, le cinéma propose autre chose, une respiration, un territoire de possibles et le happy end qu'on rêverait tous d'avoir. Le cinéma serait donc un artisan de rêve. Le film, par définition, haute définition si je peux me permettre, nous sort du présent, il le dépasse. Et c'est cette puissance-là que le cinéma convoque. Il suspend le réel et mieux pour nous y ramener, un peu changer quand la lumière se rallume. On croit bien sortir d'un rêve, n'est-ce pas? Mais rêver peut aussi être un piège. Le rêve, s'il est consumé sans conscience, devient illusion. Et l'illusion, lorsqu'elle se substitue à l'action, engourdit. Un film, c'est un rêve alors? La réponse est oui, à condition que le rêve nourrisse une vision, que l'émotion engendre une prise de conscience, que les histoires ne soient pas des murs mais des tremplins. Les films qui marquent, ceux dont on parle longtemps après le générique, sont ceux qui réveillent. Ils montrent des fractures, des colères, des espoirs. Ils ne nous protègent pas du monde, ils nous y replongent avec des outils nouveaux, de la compréhension, de l'empathie, une direction, des exemples. Un film peut planter une graine, un regard sur scène, une réplique peut créer un choc intérieur. Le cinéma peut être la promesse du monde à venir, mais seulement si nous y croyons assez pour le construire. Au sommaire de cette matinale de 19h, à l'interview, nous retrouverons Hugo. Nous parlerons donc électro, la nouvelle proue des musiques populaires pour le festival Culture. Club Culture, pardon. En Zoom, nous parlerons également avec toujours Hugo de la soirée Cypher, deuxième édition qui aura lieu au 104 en compagnie de Joanne Le Bihan, programmateur musique du 104, et H2DI, la rappeuse programmée ce samedi. Ensuite, nous aurons Fabien, toujours festival, mais cette fois-ci le festival Lob, deuxième édition. Et enfin, Nordine avec sa chronique, et ce sera Technophilo. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale. Tout de suite, l'interview avec Hugo. Bonsoir Hugo.
Bonsoir, comment ça va?
Bah écoute, ça va. Donc tu vas nous parler techno alors.
Oui, et notre invitée aujourd'hui, c'est Chloé Lebaille, directrice exécutive de Culture Barbare et Club Culture. En effet, il y a un festival qui s'appelle le Club Culture Festival, pardon. C'est le 16 mai et c'est à Paris, en Espagne, en Allemagne, et ça va célébrer la culture clubbing européenne. On est avec Chloé Lebaille. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien.
Très bien. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit, la directrice exécutive de Culture Barbare et Club Culture. C'est quoi le collectif Barbare?
Alors, le collectif Culture Barbare est une association qui rassemble sur tout le territoire français, donc des lieux que vous connaissez toutes et tous très bien, que sont des bars, des cafés, des bistrots, mais aussi des clubs. Et tous ces lieux organisent en fait toute l'année des concerts, des spectacles, des expos, en tout cas, ces lieux font vivre la culture pour tous les habitants de France.
Mais ils ne font pas seulement de l'électro.
Alors, ils font pas seulement de l'électro, ils font, voilà, l'idée c'est de faire vivre la diversité culturelle, donc ils peuvent faire du jazz, du rock, du hip-hop, du rap. Et là, en l'occurrence, vendredi, ce sera consacré aux musiques électroniques.
Aux musiques électroniques avec le festival, le Club Culture Festival. Comment est né ce festival et qu'est-ce que c'est que ce festival ?
Alors ce festival, il est né d'une envie donc justement des clubs qui sont nombreux en France et qui ont vécu comme beaucoup des événements dramatiques qu'ont été notamment la période Covid, et pendant ces événements tous nos clubs ont été fermés et on a été même on nous a imposé cette fermeture pendant 18 mois. Alors c'est pour ça on s'est tous rassemblés, on s'est réunis pour justement porter notre voix, parce qu'on s'est rendu compte que finalement on était peu ou pas considéré par les pouvoirs publics et notamment par le ministère de la Culture. Donc il y a eu ce mouvement qui est né durant la période Covid, donc l'idée de réfléchir ensemble sur une reconnaissance de ces lieux et donc une appellation Club Culture, et pour dire qu'on était bien plus que des lieux de divertissement, on était aussi des lieux de culture qui font vivre des artistes et des lieux de fête.
Et ce statut, il a changé quoi ?
Alors déjà, c'est juste nous connaître et qu'on ne soit pas un peu stigmatisé, parce que c'est un peu aussi notre histoire. Trop souvent, voilà, on peut nous assimiler qu'à des lieux où il y a des excès, où il y a de la drogue, où il y a... on assimile beaucoup ces lieux à parfois ces comportements-là, alors que bien au contraire, ces lieux sont essentiels pour toutes et tous, et notamment pour le vivre ensemble. Donc l'idée de ce statut, c'est surtout venir dire que ces lieux, ils sont importants pour la structuration de la filière culturelle, pour les artistes, mais également ils sont très importants pour le public qui les fréquente. Et justement, ce n'est pas qu'un public de drogués ou de délinquants, c'est vraiment un public qui a envie justement de vivre ces moments de fête, de partage et d'échange.
Et parce que c'est un peu le discours étatique aujourd'hui de ramener ça, l'électro, la techno, la mettre en marge et dire non, c'est de la drogue. Alors que non, quand on va en club, c'est pas seulement pour danser, c'est aussi pour s'exprimer. Et vous l'avez fait très bien avec ce statut. Est-ce que du coup, vous avez droit à des subventions publiques ou c'est encore en privé ?
Alors du coup, ce n'était pas du tout l'objectif d'aller sur des subventions publiques, parce que nous sommes les clubs aujourd'hui, en tout cas qui sont adhérents à notre collectif, sont des établissements, sont des entreprises, des établissements privés qui vivent sur des économies privées. Donc c'est pas le sujet. Vraiment, le sujet, c'était qu'il y ait une reconnaissance politique. Du gouvernement, du ministère, mais aussi des mairies, des préfectures, voilà, comme des lieux structurants des territoires et qui sont très importants pour toutes les générations, pas que pour les jeunes générations, mais vraiment qui sont importants pour le vivre ensemble, pour la population, parce qu'on voit bien que tout le monde a envie de ces moments de respiration, de ces moments de rencontres collectives, de partage. Et donc l'idée, c'était plutôt de valoriser cette image des lieux qu'ils font au quotidien depuis des dizaines d'années en France.
Et oui, vous avez donc créé ce festival qui va rassembler des figures emblématiques comme Laurent Garnier, David Guetta, Arnaud Robotini, Étienne de Crécy ou encore Petit Biscuit, mais aussi des plus petits artistes. C'est dans une cinquantaine de clubs à Paris, en Espagne et en Allemagne. Et il y a combien d'artistes en tout ? C'est énorme en fait.
Alors sur les artistes que vous avez cités, c'était les artistes qui avaient soutenu en fait toute notre démarche justement après Covid. Donc là c'est une première émission. L'idée c'est de parler de ces clubs. Donc en France, on est sur une trentaine de clubs qui participent sur une quinzaine de villes, et nos amis espagnols, il y a aussi une trentaine de clubs espagnols sur une dizaine de villes d'Espagne, donc de Madrid à Barcelone, à Valence, à Tolède. Et en France, on est donc à Paris, mais pas que, on est à Lille, on est à Rouen, on est à Rennes, on est à Nantes, on est à Bordeaux, on est à Lyon. Vraiment cette vie festive, ces artistes, ce public, ces lieux qui aiment justement la club culture, elle est présente partout sur le territoire.
Et nous justement, on est né à Paris. Où est-ce qu'on peut retrouver ce festival à Paris ? ce week-end?
Alors, à Paris, donc, on va être sur 14 lieux qui vont participer. Donc, 42 marches, Badaboum, la Bellevilloise, le June, alors le Dog B à Pantin, mais on est quasi à Paris, le Trabendo, le 211, le Nouveau Casino, la Rotonde, Stalingrad, le Sacré, Virage, Glazart, Club, Petit Bain, pour terminer.
Beaucoup de structures classiques ancrées dans la capitale. Et justement, vous parlez du June, et un jour avant, vous organisez une table ronde avec Libération, qui est co-organisée par vous et Libération. On y retrouvera Jérôme Guilbert, qui est spécialiste des musiques populaires, ainsi que sociologue et professeur à Paris-Sorbonne. Il y aura aussi Frédéric Ocard, Jeanne Mathieu. Il y a plein d'invités, et le but, c'est de parler de l'électro, de la nouvelle figure de proue des musiques populaires. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler autour d'une table ?
L'idée, c'était de sacraliser aussi un événement politique, donc une discussion. Alors, il y aura beaucoup de professionnels, mais il y aura aussi voilà, du grand public. Vous avez cité Jérôme Guibert, qui est professeur à la Sorbonne Nouvelle, donc il y aura aussi des étudiants. L'idée, c'est de parler avec tous les passionnés, voilà, de cette club culture et de démontrer qu'elle fait partie de notre histoire collective et qu'elle n'est plus en marge et qu'elle est aujourd'hui, elle fait partie donc de notre histoire, des musiques populaires et qu'elle se situe au même niveau que la musique classique, que des musiques traditionnelles bretonnes par exemple. Elle fait vraiment partie de notre histoire. Vous avez cité Laurent Garnier qui était un des précurseurs, mais maintenant on a quand même un recul d'une trentaine d'années, voire plus. Donc, on ne peut plus parler en fait des musiques électro comme des musiques alternatives en marge de notre culture française.
D'accord, merci beaucoup Chloé. Madame Lebaille, pardon, nous allons faire une petite coupure musicale, nous reviendrons juste après. Alors on va écouter Bronski Beat, le titre Small Town Boy. We'll be right back. Nous venons donc d'écouter Bronze qui beat avec le titre Small Town Boy. Et tout de suite, on retrouve Igo et Madame Chloé Le Bail pour la suite de l'interview.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Oui, bienvenue dans la matinale de 19h. Toujours, nous sommes avec Chloé Le Bail, directrice exécutive de Culture Barbare et Club Culture, pour parler du festival, du Club Culture Festival même, qui se déroule ce week-end avec, à Madrid, en France et en Allemagne en simultané. Chloé, justement, avant, nous parlions de la musique techno qui est mise en marge, mais alors qu'elle a un statut aujourd'hui qui est aussi reconnu, enfin, qui devrait être aussi reconnu que la musique classique ou que la musique bretonne. Est-ce que pour vous, il y a encore du chemin à faire pour qu'elle soit aussi reconnue ?
Oui, je pense qu'il y a encore du chemin, et on le voit bien que malheureusement, parfois, voilà, c'est un éternel recommencement. Donc là, on parle de la musique électro, mais aussi on parle de musique qui vive la nuit, en fait. Et on voit bien que dans notre société, tout ce qui a trait à la nuit, voilà, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un problème, on revient avec des réflexes, notamment liés à la sécurité, au sentiment d'insécurité. Lorsqu'il y a des problèmes, je reprends là une free party qui a eu lieu en France ce week-end. Voilà, au lieu de parler de musique, on a tout de suite parlé de problèmes de sécurité et de comportements à risque. Donc en fait, voilà, tout ça est lié, et le chemin, voilà, est encore long pour qu'on ait un statut, voilà, en tout cas un traitement d'équité, d'égalité, au même titre que l'opéra, par exemple, en France, qui est aujourd'hui complètement sacralisé. Et on voit bien que toute la musique électro, c'est pas encore ça, quoi.
Et justement, en parlant de rave party, de free party, il y a une proposition de loi qui a été déposée le 18 mars à l'Assemblée, qui vise à durcir les sanctions contre les rave parties illégales, en prévoyant jusqu'à 6 mois de prison et à 5000 euros d'amende pour les organisateurs. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est encore un recul ?
Bah, c'est quelque chose, c'est des propositions qui ne sont pas nouvelles, hein, qui durent depuis plusieurs années. Et par contre, ce qu'on peut constater, c'est que la question de la répression, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens, ne fonctionne pas. Après qu'il y ait un cadre, un règlement, voilà, ça se discute, mais on voit bien qu'aller tout de suite sur du répressif, ça n'empêchera pas. Je reparlais de la free party de ce week-end, je ne sais plus dans quel département c'était en France, mais dans le Lot, voilà. Voilà, on voit bien que de toute façon, les jeunes et pas que, les passionnés en fait de ce mouvement électro, voilà, continueront à le porter, donc hors des cadres, parce que c'est ça aussi la culture, notamment techno. Donc voilà, donc en fait, il ne faut pas se porter de la répression. Je pense que c'est se tromper en fait d'angle d'attaque pour s'il faut, voilà, rééquilibrer le problème, quoi.
Surtout que pour fréquenter les clubs techno, pour ma part, c'est quand même un milieu qui est en promotion de la safe zone. On se sent bien quand on va là-bas, tout le monde est respectueux, poli, et on essaie en tout cas de garantir une sécurité maximale. Et pour autant, l'État a l'air de dire que non, alors que pour moi, c'est un milieu qui est plus safe que dans des clubs plus mainstream, même dans d'autres soirées.
Complètement, je pense que c'est avant tout, c'est ce qu'on vit aujourd'hui pour nos esthétiques, c'est toujours une méconnaissance qui perdure en fait depuis des années, parce que voilà, que ça soit donc l'électro, je parlais de la nuit, donc de nos clubs aujourd'hui, voilà, le public vient après minuit, et donc on est toujours assimilé en fait à la vie nocturne, et tout de suite on nous accole des problèmes de voilà, de débordement, d'insécurité, voilà, de sécurité, de drogue, etc. Et cette image, elle nous colle à la peau depuis la nuit des temps. Et c'est ça qu'il faut que, voilà, faut qu'on, nous, on continue à travailler, à changer. Et vous l'avez très bien dit, nous, c'est dans notre, c'est dans l'essence même du Club Culture Festival et de l'ensemble de ces acteurs, c'est voilà, porter la safe culture aussi. On est très engagé sur les violences, en tout cas contre les violences sexistes et sexuelles. On est très engagé sur ces sujets-là, et bien plus d'ailleurs que d'autres.
Et oui, et souvent dans les soirées techno, il y a également des bénévoles qui sont là aussi pour faire attention aux drogues, pour mesurer, enfin, pour essayer de promouvoir une sécurité, ce qui n'est pas forcément fait ailleurs.
Oui, complètement. Et nous, bon, on va dire que c'est des comportements qui sont intrinsèques, j'allais dire. En fait, c'est dans notre ADN, au niveau des projets qui sont portés par par les responsables et les équipes des clubs. On travaille avec aussi beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ces questions-là. Pour n'en citer qu'un à Paris, voilà. Enfin bon, Fête Éclair, Consentis, Acrite. En tout cas, ils sont nombreux et nombreux. En fait, voilà, ça va de soi. Voilà, voilà, il n'y a pas de violence dans nos lieux. En tout cas, on y travaille pour et alors qu'on nous accole une image dans le mainstream qui est contraire. Quoi.
Pour revenir à la table ronde qui a lieu un jour avant, est-ce que c'est un événement public? Tout le monde peut y aller?
Alors c'est un événement public, n'hésitez pas aussi du coup à vous inscrire donc sur notre Instagram Club Culture. Oui, venez pour derrière aussi après porter notre bonne parole pour célébrer cette Club Culture.
Et vous avez également réussi à avoir un adjoint à la mairie de Paris, c'est bien ça?
Oui, on travaille depuis de nombreuses années à Paris, en tout cas avec Frédéric Ocard, qui est très engagé en fait sur ces questions justement d'une nuit qui se veut culturelle, festive à Paris et pas une nuit où on parle de problèmes d'insécurité. Donc on est très contente qu'il soit avec nous.
Donc le but, ça dure combien de temps cette table ronde?
Oh ben ça durera 1h30, je pense.
Et il y a seulement les personnes...
1h30, 2h.
Les personnes au micro qui peuvent participer ou également le public peut poser des questions?
Non, il y aura un échange avec la salle. Et pareil, n'hésitez pas à venir avec Radio Campus et...
Avec plaisir.
Poser vos questions.
Est-ce que vous faites une différence entre techno et électro?
Alors, je ne vais pas être la bonne personne, hyper qualifiée sur ces musiques-là, mais je pense qu'il y en a une, parce que pour moi, les musiques électroniques, c'est la famille, et la techno doit être un des courants de ces musiques. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Mais du coup, n'hésitez pas à venir jeudi, parce qu'il y aura Jérôme Guibert, qui est sociologue et professeur à la Sorbonne Nouvelle et qui est un grand spécialiste justement de l'étude de tous ces courants de musique française.
Et le courant justement de l'électro, de la techno, il monte. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'adeptes, de plus en plus de clubs à Paris. Est-ce que c'est une chose que vous ressentez également dans votre festival, vous?
Alors complètement, c'est quelque chose qu'on ressent même en France et là depuis 10 ans. Alors déjà, voilà, cette notion de club culture, elle existe, c'est ça, depuis une bonne dizaine d'années. Avant, on était plutôt sur des lieux qu'on appelait qui existent encore, hein, mais qui sont des discothèques, où on allait pour danser avec un DJ qui est là toutes les semaines, un DJ résident. Aujourd'hui, ça a muté, c'est-à-dire que celles et ceux qui se revendiquent club culture accueillent en fait des groupes, des artistes, donc beaucoup de musique électronique, mais c'est aussi en train de se diversifier. Donc, on commence à toucher d'autres esthétiques que l'électro, donc voilà, du hip-hop, du dub, etc. Enfin, l'ensemble des courants, ce qu'on appelle les musiques actuelles et aujourd'hui les musiques populaires.
Bien, merci.
Mais c'est une réalité, quoi.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Chloé Lebaye. On rappelle que le Club Suisse Culture Festival, c'est le 16 mai 2025 à Paris et ailleurs, partout. Et la table ronde, c'est la veille. C'est à 19h au June Club. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Chloé Lebaye, d'avoir été avec nous.
Merci. Bonne soirée. Au revoir.
Aussi, au revoir.
Au revoir. Tout de suite, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Coco Rossi avec le titre Pushing Daisies. Dreaming of her back.
drifting, dropping all her dimes and nickels, waiting for her backseat copy. Fucking doorbell never banging. Now that funky booster's calling in the early crack of dawning, going loony, toony, yawny, dreaming of her backseat poppy. Poppy promised he would call her. Poppy said he would do better. Left her fiending, lonely, dreaming with a baby, crying, screaming. Poppy dumped her. Poppy dropped her. Poppy knocked her up and locked her. Left her in that junkyard dying with a baby screaming, crying. Mama's in the junk house working for her backseat poppy. Her backseat poppy. She got kissed but never wet. He went south, dirty mouth, nothing left but broken house. He got dead, lost her head. She got kissed but never wet. He went south, dirty mouth, nothing left but broken house.
D'écouter Coco Rossi avec le titre Pushing Daisies et il est 19h29 et vous êtes toujours en direct sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Tout de suite, la chronique de Nordinon. Bonjour Nordine.
Bonjour tout le monde.
Alors,
bienvenue sur la chronique Technophilo.
Et
si tu aimes la philosophie, la technologie et la techno, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de robots qui ont fait un marathon en Chine et comprendre avec les philosophes Marx et Bernard Stiegler en quoi cela annonce une prolétarisation généralisée des travailleurs. Fin avril à Pékin en Chine, une vingtaine de robots humanoïdes ont participé à un semi-marathon d'une vingtaine de kilomètres. Des concepteurs de robots issus de différentes firmes ont mis en concurrence leurs machines pour voir laquelle serait capable de finir le marathon en un temps record. Sur les 20 humanoïdes ayant couru à côté des coureurs humains, seulement 6 ont réussi à finir l'épreuve avec des chronos assez mauvais. Bien que les performances furent médiocres, ils nous montrent que les robots humanoïdes sont encore bien loin de pouvoir se déplacer aussi bien que des humains. Les firmes robotiques chinoises qui ont fait participer leurs machines au semi-marathon se disent très satisfaites de l'expérience, dont le but premier était avant tout de récolter des informations topographiques pour savoir comment améliorer les humanoïdes. Il faut comprendre que cette course s'inscrit en fait dans la course au progrès technologique entre les États-Unis et la Chine. Le gouvernement chinois, pressé de dépasser son concurrent américain dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique, a bien entendu financé et soutenu l'événement. Mais, philosophiquement parlant, comment pouvons-nous interpréter cette actualité ? Cette course humanoïde qui ont essayé de courir aussi bien que des humains symbolise et prédit un processus de prolétarisation généralisée. Expliquons. Karl Marx dans Le Capital définissait la prolétarisation comme étant un processus par lequel un artisan qui travaillait dans un atelier ou une manufacture sur de petites machines et avec des outils à taille humaine, utilisant son savoir-faire, ses compétences techniques pour accomplir son travail, va, avec la révolution industrielle, passer de la manufacture à l'usine et travailler avec des machines industrielles automatisées, perdant complètement son savoir-faire pour n'exécuter que des tâches minimales et répétitives. Alors que le travail de l'artisan avait du sens et nécessitait des compétences sophistiquées, l'ouvrier prolétarisé se retrouve à n'être qu'un outil de la machine, aliéné en ce sens qu'il est arraché de son savoir-faire. Le philosophe français Bernard Stiegler va dans les années 2000 prolonger cette réflexion de Marx. Selon Stiegler, ce processus de prolétarisation, avec le développement moderne de l'intelligence artificielle et de la robotique dans toutes les sphères, est en train de se généraliser. Désormais, ce n'est plus que l'ouvrier d'usine qui est prolétarisé, détaché de son savoir-faire, mais tous les ouvriers, employés et travailleurs sont touchés par le phénomène. Stiegler écrit dans son livre « État de choc, bêtises et savoirs au XXIe siècle » qu'on peut parler de prolétarisation du travailleur à partir du moment où son savoir est extériorisé dans une machine. Je suis prolétarisé lorsque mon savoir-faire est exécuté à ma place par la machine, lorsqu'une opération manuelle est faite par un robot et lorsqu'une opération intellectuelle est menée par une intelligence artificielle, alors on peut parler de prolétarisation. Stiegler remarque que le capitalisme du XXIe siècle est marqué par une extériorisation de tous les savoirs humains. Nos compétences physiques, cognitives et même affectives sont de plus en plus assistées, puis remplacées par le processus d'automatisation des machines. Ainsi, dans le monde du travail, tout particulièrement, non seulement les humanoïdes et machines robotiques assistent et remplacent les gestes physiques de l'ouvrier, mais plus encore, l'intelligence artificielle et les programmes informatiques vont de plus en plus exécuter à la place de l'employé des opérations intellectuelles. L'IA et ses outils de calcul prennent une part de plus en plus grande dans le monde du travail et des employés hautement qualifiés l'utilisent pour accélérer leurs tâches. Stiegler interprète donc que cet accroissement de l'utilisation de l'IA et des outils de calcul n'est pas un progrès, mais plutôt un signe d'un processus de prolétarisation. Ainsi, cette course aux robots en Chine est un symbole fort pour nous. Des humanoïdes ont couru à côté des marathoniens humains, comme si au fond, la machine robotique et l'intelligence artificielle avaient déjà entamé une course non pas avec l'homme, mais contre l'homme. Une course dans laquelle celui qui perd devra à la fin servir l'autre pour la vie.
Merci beaucoup Nordi, merci pour cette chronique philo. Et tout de suite, nous allons retrouver donc Hugo pour le Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Alors, comment on se retrouve ?
Ouais, ça va, ça va.
Donc, alors dis-moi tout.
Alors, cette fois, c'est place au rap, surtout place aux meufs. Dans le rap, on parle du festival Cypher, Her comme Else. C'est la deuxième édition, c'est samedi, donc ce samedi-là, le 17 mai à 20h au 104. Et avec nous dans le studio, il y a Johan Le Bihan, programmateur musique du 104 Paris, et H2ZI, rappeuse, qui est programmée au festival. Bonjour à vous deux, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Alors, c'est pas encore un festival.
Pardon, un concert.
Aucun problème. C'est plutôt une soirée dédiée en effet au rap féminin. C'est la deuxième édition, comme tu l'as très bien dit. Et l'idée, c'est d'accueillir des figures dans le rap plutôt qualifiées d'émergentes, mais comme H2ZI, qui ont une forte personnalité, pas que par la musique, par la danse aussi. Et c'est de proposer un plateau avec quatre artistes. Donc, on retrouvera donc Opal, qui est finaliste en ce moment du dispositif du tremplin rappeuse, portée par une superbe équipe qui s'appelle Call Me Fancy avec Gauthier et Charlotte. On retrouve aussi donc Azem Ouzazi qui a été la gagnante du tremplin en 2024. H, c'était en 2021. Ouais. Voilà, et en tête d'affiche, c'est Mademoiselle Lou qu'on présente un peu moins. Donc voilà.
Il est né comment ce concert justement ? Comment est-ce que vous avez pensé à organiser ça ?
C'est une très bonne question. Écoute, le 104, on en parlait avec Ashley justement. Certaines personnes connaissent le lieu sans forcément savoir qu'au sein du lieu vit aussi la musique. Enfin, il y a beaucoup de concerts et on est. C'est un lieu aussi qui est une plateforme de collaboration et un lieu dédié à toutes les musiques. Enfin, pour ma part, c'est et l'idée c'était un moment de se dire bon, il se passe quand même beaucoup de choses dans le rap aujourd'hui, au niveau des femmes aussi. Et on avait à cœur en interne d'avoir vraiment une soirée dédiée autour du rap féminin. Donc c'est venu d'une ligne de programmation. Donc il y a une première édition l'an dernier qui a été un petit succès. Enfin, c'était très bien. On retrouvait Collectif Go Go Go, Soumeya, Issa Yasuke, très très beau concert, superbe artiste. Et là, l'idée c'est de continuer et d'en avoir encore une autre l'année prochaine et c'est d'inscrire cet événement dans le temps, mais aussi avec une approche avec beaucoup d'humilité. On n'est pas à la place, on n'est pas un lieu dédié à 100% à la musique, mais on veut que ce soit une sorte de petit statement de moment pour les artistes et que ce soit aussi que ça crée aussi une figure tutélaire pour des jeunes et moins jeunes du quartier. On est quand même sur l'arrondissement, le 19e arrondissement, le plus jeune de tout Paris. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un tarif très très attractif et que tout le public puisse venir en ce samedi. Voilà.
Et toi, Ash, tu as participé aux auditions de Nouvelle École en 2023. Ça a mis un petit peu un coup de projecteur sur toi. Et après, tu as été écarté. Et là, le prochain jury de Nouvelle École, il n'y a que des mecs. Il n'y a que Niska et SCH et les meufs, c'est fini. Toi, j'ai l'impression que tu prends la place, tu la demandes pas, non ?
Exactement. Je suis ma place, j'ai envie de dire.
C'est ça. Voilà. Et dans le titre œuf, tu dis je suis le genre de go qui perturbe ton ego. Est-ce que c'est une allusion au mec ?
Pas forcément, enfin un petit peu parce que de base je suis danseuse et donc j'ai commencé par le hip-hop et là le crump. Et c'est vrai que c'est des milieux plutôt masculins et il faut quand même. Même si je suis ma place, j'ai quand même dû créer ma place. Et voilà. En vrai, ça me plaît parce que ça permet de forger un peu le mental. Et voilà. Et de ne pas se laisser marcher sur les pieds.
Yes. C'est quoi le crump, juste ?
Écoute, c'est une danse bien underground qui vient de Los Angeles, dans les années 2000 à peu près. Il y a eu un documentaire qui a été créé par David LaChapelle qui est sorti, qui s'appelle Rise. Ça a mis un gros coup de projecteur sur le crump et c'est une danse très c'est une danse en soi, mais moi je préfère parler d'une énergie parce que c'est assez puissant, assez pur et voilà, c'est vraiment, enfin moi en tout cas ça m'a sauvé de plein de choses et ça représente aussi beaucoup pour moi et ça fait l'artiste aussi que je suis aujourd'hui.
Oui, parce que ouais, t'as un peu tout quoi, tu danses, tu rappes. Est-ce que c'est important de tout faire sur scène?
Ouais, parce que moi je me dis artiste, je me dis ni danseuse ni rappeuse, je me dis juste artiste avec un message à apporter, cette envie de créer, et du coup ouais, je peux pas oublier tout ce que je suis pour rentrer dans un autre code ou quoi, enfin, et ça reste hip hop quoi, enfin de manière générale ça reste hip hop.
Ouais, c'est grave hip hop.
C'est grave hip hop.
Est-ce que tu préfères la scène au studio?
Ouais, complètement.
Parce que du coup tu peux danser en même temps, je suppose.
Exactement. Mais parfois ça m'arrive de danser pour faire du son, dans le sens où des fois j'ai pas forcément d'idée de, je sais pas, de mélodie ou de flow, et du coup je peux écouter une prod et je sais pas, mon corps il va vouloir s'exprimer, et en fait ça va me permettre aussi de m'inspirer, en tout cas par les mots.
Et c'est le corps qui crée les mots au final?
C'est un peu, pas tout le temps, mais souvent c'est le corps qui crée les mots, ouais.
Est-ce que tu crois que ce côté un peu bad bitch que fait Shy, que tu fais un petit peu aussi, est-ce qu'une meuf peut percer sans, ou c'est essentiel de rapper en C pour percer?
Le côté bad bitch, ouais. Tu veux dire? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, enfin, en tout cas, moi, mon exemple, c'est un peu les États-Unis. Et t'as des rappeuses comme à l'ancienne, des Bahamadja, où c'était carrément des garçons manqués, ou des meufs comme Lauryn Hill. Après, plus tard, il y a eu des Cardi B, des Nicki Minaj et tout. Mais quand même, pas forcément. Je me dis, non. Je pense pas.
Okay. Et là, cette année, il y a le bouillon qui arrive fort en France. Le Shahada, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je kiffe de fou. En plus, moi, je suis antillaise, du coup, bah, je suis en mode let's go.
Ah ouais, tu viens d'où?
Alors, moi, je viens de Sainte-Lucie, okay. Martinique et île Maurice aussi de l'autre côté.
Ah, la Martinique, c'est un bon bouillon là.
Bien bouillon, ouais, bien hard.
Toi, justement, c'est un truc qui t'intéresse, ce courant-là ou...
Ouais, je kiffe de ouf. Bah, après, moi, j'avoue, depuis que je suis petite, la musique, c'est là. Première fois que je vais à Sainte-Lucie, je crois que j'ai 8 ans ou 9 ans, il y a le carnaval. Des cousines à moi, elles sont sur les chars, je vois ça danse et moi je me dis mais en fait c'est ça chez moi, let's go, genre. Et en fait je pense que ça m'a un peu matrixée d'une certaine manière, enfin En fait, j'ai, même à la maison, ma mère, elle mettait de la musique tout le temps. Le dimanche, je me faisais réveiller par du compas. Et ouais, du coup, je pense que c'est quand même dans mes influences. Après, tu vois, par rapport à la musique, vu que c'est quelque chose qui est arrivé, je vais dire récemment, en tout cas, là, ça fait plutôt un an ou deux où j'essaye de vraiment me donner les moyens d'y arriver. Parce que, après, mon métier, c'est la danse, ça demande aussi beaucoup. Mais plus ça va. Et plus je ressens ces influences-là dans ma musique. Un peu dancehall, pas tant dans les paroles, mais plus dans l'énergie, dans la façon de placer et tout. Donc ouais, je découvre encore et je kiffe.
Mais parce que t'as un rap qui est hyper énergique, enfin, c'est impossible de le faire statique, quoi. Il faut vraiment bouger avec.
Ouais, moi sur scène j'ai besoin de... d'extérioriser, j'avoue, j'ai beaucoup de feu. Et du coup, ouais, et la musique et la danse, ça me permet vraiment de canaliser ça et d'essayer de concentrer tout ça, tu vois, dans une même direction, sans trop me dissiper.
Et c'est un personnage, parce que moi je t'ai vu en clip, c'était à Lunettes de Soleil, en cuir, je me suis dit, ouais, elle va arriver dans le studio, ça va être impressionnant. Attends, puis la capuche, lunettes rectangulaires.
Ouais, là je suis en ouh, très strict, hein. très strict.
Là c'est Ashley, et la scène
c'est Ashley fatiguée aussi.
C'est Ashley fatiguée.
Mais ouais, non, après sur scène, en fait je suis moi-même, mais c'est juste que sur scène c'est un peu décuplé, tu vois.
Ouais.
Et dans les visus, après ce clip-là, œuf. En fait, c'est juste symbolique pour moi parce que c'est genre le premier son que j'écris de toute ma vie. C'était en 2021. Et j'étais en mode, en fait, j'ai juste envie de le clipper. Je l'ai produit moi-même, je l'ai réalisé moi-même. Et c'était juste pour me régaler moi-même.
Ok, donc, trop bien.
Alors moi, j'avais une question. Alors, c'est une question de société parce que moi, je suis admirative du fait que Barack en fasse sa place. En tout cas, on va la chercher au milieu de tous ces hommes. Et justement, donc, comme dans d'autres secteurs, on parle aussi un peu de plafond de verre dans le rap, j'imagine. Et d'après vous, c'est lié à quoi? C'est l'industrie qui fait ça, qui ne nous donne pas assez notre place, qui est plutôt dans l'inégalité aussi?
Franchement...
Ou c'est juste qu'on n'est pas assez?
Je sais pas. Ouais. Je sais pas, parce qu'en fait, dans les autres modèles, par exemple, à l'étranger, c'est pas comme ça.
Non.
Et il n'y a pas de distinction entre gars et meufs. Genre, ça dit pas rappeur ou rappeuse. Mmh. Ça dit juste rappeur ou artiste, tu vois. Je pense que peut-être c'est culturel aussi. Après, il y a de la place pour des artistes femmes en France, mais plutôt pop. Même R&B, c'est compliqué en France. Je pense que... Bah, après, il y a un peu de retard. Après, c'est pas... enfin, le hip-hop et le R&B, tout ça vient des States. Donc, normal qu'ils soient en avance par rapport à nous. Mais je pense que c'est un souci de mentalité, ouais, de ce côté un peu conservateur.
Et justement, est-ce qu'il y a un soutien entre femmes parce que j'imagine que tu en rencontres d'autres, ou peut-être avoir des liens avec certaines ou non, pas du tout, justement, en fait, qui fait que...
Bah, naturellement, oui. Mmh. Tu vois, ça se fait. Parce qu'on, en tout cas, les femmes que je rencontre, c'est pareil que moi, elles sont dans des milieux plutôt masculins et du coup, il faut s'imposer. Mmh. Mais moi, après, j'en fais pas tout un. Comment expliquer ? Ouais. J'en fais pas tout. Enfin, je me sens concernée, oui et non, tu vois. En fait, c'est pas parce que je suis une meuf que je dois faire ma place. La vie, elle est comme ça pour moi. Donc, quoi qu'il arrive, même si ça aurait été que des femmes, bah, j'aurais dû quand même faire ma place aussi, tu vois. Donc, après, moi, c'est pas un combat que je mène en mode féministe plus, tu vois, mais c'est juste que. Moi, je me dis, je vais m'imposer coûte que coûte par mon art et fin, tu vois.
Je comprends.
Il n'y a pas de plan B, en tout cas.
Merci de nous faire la place, déjà, franchement. C'est un modèle, finalement. Merci beaucoup. Tout de suite, on va faire une petite pause musicale.
Où est-ce qu'on écoute justement le titre dont on parlait? C'est le titre F.
Voilà.
Let's go.
De H2ZI.
Pas d'artifice sur mon œuf. C'est moi qui tiens tout comme la yeuf. Tranchant et fou comme la poteau. Qui découpe des gars dans Kill Bill. Gros verre de rhum, j'esquive le Covid. Sans modération, c'est du lolo. Je suis genre de go qui perturbe ton ego. Laisse comprendre, aimer follow. Je viens de m'évader d'Arkham. Passe des nuits blanches sur ma cam. Cherche pas à me connaître, je suis pas fréquentable. Mais cherche dans mes verres, tu pourrais te reconnaître. Pas de gilet pare-balles, on esquive les. Inébranlable, on encaisse les. Liquidation, on écoule les doses. Pas d'overdose avec mes lignes. Dépose dans les pros en équilibre. Quand ça pue la merde, je sens les canines. Au bout de la troisième, je sens les calines. On tue le temps, on fout le camp. C'est le beau camp.
jamais été vide, pas besoin de faire le plein. La tête dans ma quête et le cœur sur la main. Ils se mettent à danser quand je commence à kicker. Tu crois que je suis docile devant toi, je reste sûr. T'es mal à carrière, elle est splendide. Toi t'as cru quoi que j'étais facile? Vie de malade, renfoule les psy. Arrête d'y croire, je te montre ce que tu veux voir. La seule que je crains, c'est moi dans le miroir. Je te suis familière, mais je sais pas quitter. Mes rimes sont des pics et t'es là, poupée. Pas d'artifice sur mon œuf. C'est moi qui tiens tout comme la dieu. Tranchant il faut comme la poteau. Qui découpe des gâteaux dans qu'il vit. Gros verre de rhum, j'esquive le Covid. Sans modération c'est du lolo. J'suis genre de go qui perturbe ton ego. Laisse reprendre et me follow. Laisse reprendre et me follow. Laisse reprendre et me follow. Laisse reprendre et me follow.
Nous venons donc d'écouter H to the I avec le titre œuf. Et tout de suite, deuxième zoom avec Fabien.
Le zoom dans la matinale de 19h.
Bonsoir Fabien.
Bonsoir, et donc ce soir, donc sur ce Zoom, on va parler de l'oreille de Dauphiné. Donc c'est une association étudiante qui fait découvrir des styles de musique originaux et produit donc 4 festivals, dont le Love Festival, qui a une programmation, donc c'est le dernier, plutôt indie pop rock.
Ouais.
Et donc, bon, bah, est-ce que vous pouvez, bonjour déjà pour commencer, hein. Moi j'enchaîne directement, hein. Je fonce comme un taureau. Bonjour déjà, pouvez-vous nous présenter un peu rapidement l'Oreille du Dauphiné et donc le festival, l'Oreille du Dauphiné d'abord?
Ouais, bah alors on est une association étudiante de l'université Paris-Dauphine et voilà, ça fait plusieurs années, depuis... je crois 1996, qu'on organise des festivals de musique. Donc on en avait 4 par an. Et donc on a un festival de funk, de jazz, anciennement de dub. Et là, c'est un festival, indie rock. Et en fait, le principe, c'est qu'on organise de A à Z le festival en faisant la programmation, la déco pour l'installation du lieu, parce qu'on fait dans les locaux de Dauphine. On installe les bars, on contacte des prestataires techniques. Et aussi des partenaires extérieurs, on fait la com. Donc, on est une soixantaine de membres actifs et de tout âge. Et voilà.
De tout âge. Si je veux venir demain, moi, je peux y aller, c'est ça?
Exactement.
Faites attention, je vais postuler. Donc, on vous disait justement avec le Dauphiné Jazz, le Dauphunk, c'est ça?
Oui, le Dauphunk, qui est en février.
Music to Rock the Nation, et bien, donc, bien entendu, donc, le Love Festival, c'est une alternative, je crois, du Music to Rock the Nation.
En fait, le Music to Rock the Nation, il y a eu plus de 20 éditions qui ont été faites, mais en fait, la cour, elle est en travaux, donc on a dû arrêter la programmation de ce festival. Et le LOB, c'était un peu une alternative parce que pendant plusieurs années, on ne pouvait pas le faire un festival en mai. Donc voilà, il y a eu l'idée l'année dernière de relancer un festival au mois de mai. Voilà.
D'accord. Et donc on dit que c'est une alternative. Et c'est donc des festivals différents qui se complètent. Comment est-ce que vous choisissez les genres musicaux lorsque vous créez un festival?
C'est plus le genre qui est défini en fonction du nom du festival. Et en fait, comme ça fait plusieurs années, c'est un peu institué. Par exemple, en février, on a le Dauphunk. Et c'était la 16e édition. Ça fait 16 ans qu'on fait de la funk vers le mois de février. Donc,
ça doit être vachement sympa.
Voilà.
Je crois qu'il va me quitter, Fabien, je crois.
Moi, pourquoi?
Pour aller au festival.
Ouais, là, vous l'avez loupé cette année. Hein.
Non, mais franchement, j'aime beaucoup. Pourquoi avoir créé un nouveau festival chez la GFL? Comment est-ce que vous choisissez les groupes ensuite? Est-ce que ce sont des groupes confirmés ou au contraire, est-ce que vous privilégiez des nouveaux groupes? Est-ce que vous allez chercher des candidatures ou est-ce que c'est uniquement des personnes qui postulent directement?
Alors c'est un peu de tout ce que vous avez dit. En fait, on a 2 responsables prog dans l'asso et ils vont démarcher des assos. Des groupes d'artistes. Ces temps, ils peuvent nous envoyer des mails et là, on peut découvrir les groupes. Mais sinon, ils vont beaucoup piocher sur Instagram des groupes émergents. Souvent, c'est des jeunes. Aller à des concerts, découvrir par exemple au Supersonic. Je sais qu'il y a un des groupes du LOB qui a été découvert au Supersonic. C'est un peu de tout. Il y a des groupes qui sont déjà un peu plus connus ou sinon c'est vraiment. Ils sont.
Un tremplin.
Voilà, un tremplin.
Donc c'est un mix, c'est bien, ça permet de faire découvrir aussi des nouveaux groupes.
Ouais.
Donc vous êtes en partenariat aussi avec d'autres associations et vous parrainez un projet solidaire notamment, ouais, qui change chaque année, je crois, c'est ça?
Alors chaque année, on fait un vote avec les membres de l'association sur quel asso on veut parrainer cette année. L'année dernière, c'était Utopia 56. Cette année, c'est France Terre d'Asile. C'est une association qui vient en aide aux réfugiés, demandeurs d'asile. Et en fait, le principe de tous nos festivals, c'est que les bénéfices qu'on va faire, on va les reverser à l'association qu'on parraine à l'année. Et souvent, ils viennent et ils tiennent un stand de sensibilisation pendant le festival.
C'était exactement ce que j'allais demander. Est-ce qu'ils venaient? Et donc, j'ai vu qu'il y a aussi des stands de restauration et d'animation qui sont aussi tenus par d'autres associations. Donc en fait, c'est vraiment un partenariat entre plein d'associations, en fin de compte.
Ça c'était plus le principe du MRN qu'on faisait il y a plusieurs années, où il y avait vraiment beaucoup d'associations qui venaient. Là, comme l'espace il était un peu plus réduit, c'est plus nous qui tenons le bar et les restos. Mais oui, il y a d'autres assos qui peuvent tenir un stand de barbe à papa, un peu de tout.
Pourquoi barbe à papa?
C'est sympathique.
C'est très bien. Il y a des manèges aussi, non? Là, je suis en train de me lâcher.
Pour la prochaine édition.
Je suis en train de me lâcher. Je disais, oui, vous avez parrainé un projet solidaire, quatre associations. Comment est-ce qu'on organise un festival dans une fac, en fin de compte? Parce que bon, c'est
complexe.
C'est complexe. C'est-à-dire, je veux tout savoir.
Il y a sur le plan technique, l'administration, etc. Il y a beaucoup de normes et de règles, donc faut respecter ça. Mais sinon, quand même, ils sont sympas, ils nous laissent beaucoup de liberté et en fait, on transforme un peu la fac le temps d'une soirée où les gens qui ont l'habitude de venir, par exemple, dans l'amphithéâtre, c'est le plus gros amphithéâtre de Dauphine, là où il y a les concerts. Ils oublient vite qu'ils ont passé leur partiel la semaine dernière dans le même amphi. Et en fait, dans le hall principal où il y a un DJ set et tous les bars, le resto, etc., on fait beaucoup de déco. On met des grandes affiches qu'on prépare lors d'un week-end déco qu'on fait au préalable.
On fait des guirlandes avec du papier crépon.
Mais exactement.
C'est vrai.
On fait des guirlandes avec un peu de tout et rien. Donc vraiment, on reconnaît pas les lieux parce que à la base, l'endroit c'est pas. Non, ouais.
Je connais très bien parce que moi je suis alumni,
Et l'amphithéâtre, vraiment, il y a tout un des lumières qui sont installées par un prestataire extérieur qui vient. Pareil pour le son, c'est vraiment cool de voir son université transformée comme ça et où on dirait pas du tout une université en fait.
Pas du tout.
À la fin. Ouais.
Et vous gérez vraiment tout seul ou par exemple il y a l'administration du lycée qui vous donne un petit coup de pouce ou pour certaines choses peut-être parce que.
Alors la vie associative à Dauphine est assez développée donc ça il nous aide un petit peu pour nous guider sur les choses un peu plus vraiment administratives parce qu'il faut déclarer à la préfecture, faut faire des dossiers de sécurité, il y a vraiment ça on n'y connaît rien à la base donc voilà mais on est quand même assez autonome et organisé, c'est quand même intéressant parce qu'on voit l'envers de l'organisation d'un festival qui pourrait être en fait à l'extérieur et c'est vraiment très sympa de.
Est-ce que vous avez il faudrait demander des informations à rajouter. Est-ce qu'il y a déjà le prix par exemple?
Du coup, j'ai pas trop parlé du festival. En fait, ça sera samedi. Donc, le LOB Festival, on en a parlé tout à l'heure. Samedi 17 mai, c'est 18h45 à minuit. Et le billet est à 12 euros. Donc, ou à 14 euros sur place. Et les pintes sont à 4 euros, si jamais. En général, c'est un bon argument.
Exactement.
Que dire? Il y a trois groupes d'artistes. Halfpipe, Mobius 99 et V-Initiative. Et un DJ set avec une DJ qui s'appelle Artem. Donc c'est
une belle programmation. Ça va être une bonne ambiance.
Et on peut prendre des places sur Allo Hello Asso.
Ouais, toutes les infos sont sur notre Insta qui s'appelle L'Oreille de Dauphine, tout attaché. Il y a un lien Linktree. Vous retrouverez très facilement la billetterie. Et sinon, on est sur Shotgun aussi. Vous tapez LOB Festival et il y a une billetterie. Donc
voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as coupé l'air sous le pied. Et donc, pour conclure, est-ce que vous voulez justement rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, une information complémentaire ou...
Je sais que là, c'est sûrement des étudiants qui écoutent. C'est la période des partiels. Exactement. Et il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils ont leur partiel la semaine prochaine. C'est pas une excuse. Venez profiter. Samedi soir, c'est 18h45 à minuit. Ça sera très bien. Ou si c'est la fin de vos partiels, c'est une très bonne façon de fêter.
Et en plus, si vous venez, ils vous donneront les réponses des partiels. Non, ça, c'est pas vrai.
C'est dans un amphithéâtre, donc il y a moyen que ça soit caché quelque part.
Et puis on va.
C'était une blague.
On va insister sur le 4 euros la pinte.
Ouais. Non, mais ça, c'est. En plus, elle est très fraîche, très bonne. Tireuse. On a des tireuses.
Et vous avez beaucoup de marques différentes sans donner les.
C'est la même bière.
En tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous.
Donc, je rappelle la date, c'est samedi 17 mai. Ouais. Et ce sera donc à l'Université Paris-Dauphine. Et dans le 16e, pour ceux qui ne savent pas. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est la fin de cette matinale.
Merci à vous.
Merci beaucoup, au revoir. C'est la fin de cette matinale. C'était Francesca à l'animation. Merci à nos invités. Merci à Hugo pour l'interview et le Zoom 1. Merci à Fabien pour le 2 et notre chroniqueur Nordine. Merci Simon pour la réalisation et merci à Moïvienne pour la coordination de cette émission. On revient demain, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radiocampus.org pour écouter tous nos podcasts. La matinale -RCP sur Instagram. Très bonne soirée sur le 93.9 et à demain.